12 jours après l'offensive militaire du Hamas contre des zones israéliennes situées à proximité de Gaza, la vague de bombardements israéliens ne s'arrête plus de pleuvoir sur Gaza, devenue une zone de ruines à ciel ouvert, un cimetière qui ne cesse de s'élargir. Alors que le bilan de l'attaque du Hamas se portait à 1400 morts le 7 octobre, 1400 morts israéliens le 7 octobre dernier, celui des victimes palestiniennes se chiffre désormais à 3800 morts selon le ministère de la Santé palestinien, et d'un million de réfugiés palestiniens qui ont dû quitter le nord de Gaza. Parmi les dernières cibles de l'aviation israélienne, la destruction de l'hôpital de Gaza qui a fait 500 morts, une opération qui n'a pas été reconnue par l'armée israélienne qui l'attribue au djihad islamique, alors que l'organisation palestinienne niait toute implication dans cette affaire. Quoi qu'il en soit, selon Denis Bochard, l'ancien ambassadeur de France en Jordanie, le tir meurtrier sur l'hôpital de Gaza porte, je cite, un coup décisif à l'image de l'État hébreu. Pendant ce temps, des centaines de Palestiniens criaient leur désespoir au cours d'une manifestation mercredi en Cisjordanie pour réclamer le départ du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, avec comme slogan, je cite, Ils regardent les enfants de Gaza se faire tuer. Dans ce premier tableau, pour le moins dramatique, de la situation palestinienne, quel bilan politique, militaire et humanitaire peut-on tirer? Et quelles perspectives reste-t-il encore aux Palestiniens pour entrevoir un avenir moins sombre? Pour en discuter avec nous, nous recevons Alain Gresh sur Mizen TV. Bonjour Alain Gresh.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous avez travaillé pendant de longues années au journal mensuel de référence, Le Monde diplomatique, dont vous étiez rédacteur en chef. Vous officiez à présent dans la revue en ligne Orient 21 que vous avez fondée. Vous êtes également l'auteur de plusieurs livres sur la Palestine. On citera Israël-Palestine, vérité sur un conflit aux éditions Fayard, ou encore Palestine 1947, un partage avorté, coécrit avec Dominique Vidal aux éditions Complexe. Et je crois que vous sortez un nouvel ouvrage que vous pouvez peut-être présenter en deux mots.
Ben, c'est un ouvrage, c'est un, comment on appelle ça maintenant, un récit dessiné, c'est une bande dessinée que j'ai réalisée avec une dessinatrice qui s'appelle Un chant d'amour, Israël-Palestine. Palestine, une histoire française, une passion française, qui raconte les évolutions de la politique française depuis la guerre de juin 67 et les premières prises de position du général de Gaulle jusqu'à la présidence d'Emmanuel Macron.
Très bien.
Et c'est paru chez aux éditions Libertalia.
Libertalia. Nous recevons également Omar El Soumi. Bienvenue sur Mizen TV.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur du collectif Urgence Palestine. Vous êtes vous-même palestinien et vous nous apporterez notamment votre témoignage sur la manière dont la situation dramatique vécue par le peuple palestinien est perçue ici en France au sein de la petite communauté des franco-palestiniens. Alors, ma première question, Alain Gresh, sera directe. Beaucoup de qualificatifs différents ont été employés pour désigner ce qui se passe actuellement à Gaza. Certains vont jusqu'à parler de génocide ou de nettoyage ethnique à Gaza, quand d'autres ne parlent que de victimes civiles, voire de victimes collatérales dans le cadre d'une opération antiterroriste. Selon vous, Alain Gresh, que se passe-t-il à Gaza et comment faut-il nommer ce qui se passe à Gaza?
Je ne sais pas si la question de nommer est vraiment l'essentiel. On pourrait dire qu'il y a des choses qui se passent qui seront passibles sans doute d'une cour pénale internationale si elle fonctionnait en termes qui peut analyser crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Mais je veux dire, l'important, c'est de voir que, quoi qu'on pense du point de départ des événements, il y a aujourd'hui une attaque massive contre les populations civiles de Gaza, avec un déplacement massif, avec des bombardements indiscriminés de populations civiles, et que ça, c'est effectivement très inquiétant. Mais l'autre chose aussi qui me semble important de souligner aujourd'hui, c'est les Israéliens ont un discours assez étonnant. Ils disent, mais on n'a provoqué personne, ils nous ont attaqués. Mais ce qui provoque depuis 50 ans les Palestiniens, c'est l'occupation. Il n'y a pas besoin d'une provocation au sens de tirer. Il y a le fait que la vie quotidienne des Palestiniens, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, mais aussi à Gaza, et je dirais surtout à Gaza, est au sens propre insupportable. Je veux dire, vous imaginez dans un territoire comme Gaza, qui a un peu plus de 2 millions d'habitants, dont je ne sais pas, 70% sont des moins de 30 ans, qui n'ont jamais rien connu d'autre que l'occupation extérieure de Gaza, parce qu'en fait, Gaza reste occupée, même s'il n'y a pas de troupes israéliennes jusqu'à présent à l'intérieur, qui n'ont aucune perspective de vie. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas grandir normalement comme les jeunes ou que ce soit. Ils ont une situation intenable. Et penser qu'il va y avoir un moment où les Palestiniens vont accepter cette situation, c'est illusoire. Donc, même si demain, et puis on sait que demain, il va y avoir à un moment ou un autre où ça va s'arrêter, nous savons que tant que l'occupation durera, ça continuera. Et c'est ça, je dirais, même qui me choque dans la position européenne et de la position française, on y reviendra peut-être, c'est on fait comme si cette occupation, qui est que les Européens, que même les Américains considèrent comme illégale, continue et que ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire sans se rendre compte des conséquences qu'elle a sur la vie quotidienne des gens et aussi sur la résistance qu'elle provoque. On reviendra là aussi sur De Gaulle, mais dans la bande dessinée, on cite la fameuse conférence du général De Gaulle en novembre 1967, où il dit, c'est vraiment prémonitoire, il dit, Israël organise l'occupation. L'occupation ne peut pas aller sans répression, déportation, etc. Face à ça, il y a forcément une résistance qu'Israël va appeler le terrorisme. Je veux dire, il avait tout compris tout de suite. Et aujourd'hui, malheureusement, les gouvernements européens et occidentaux ne comprennent pas ça.
Omar Al-Soumi, est-ce que pour vous, comment vous qualifieriez et comment finalement les Palestiniens que vous avez pu rencontrer et avec lesquels vous avez des échanges, comment ils perçoivent ce qui se passe actuellement à Gaza? Est-ce que c'est une répression malheureusement familière ou est-ce qu'on a atteint quand même une intensité assez particulière qui autoriserait donc, j'évoquais certains termes qui sont utilisés comme les termes de génocide ou de nettoyage ethnique, qui renvoient quand même à une réalité précise, même y compris sur le plan juridique?
Je ne vais pas faire du droit pénal international ici. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nos amis à Gaza, ils sont habitués à affronter la violence coloniale et la répression israélienne, mais personne n'a jamais vu ça. Personne n'a jamais vécu ça. Et les mots qui sortent de la bouche des Palestiniens aujourd'hui, c'est Ibad et Jamaïe qui se traduit par génocide. C'est ce sentiment qu'il y a un projet à l'œuvre d'effacement et d'écrasement sans limite des Palestiniens parce qu'ils sont Palestiniens. Mais au-delà des mots que vous avez cités tout à l'heure, je crois qu'il y en a un qu'il faut reprendre et mentionner, c'est celui de Nakba, de catastrophe. Au moment de la création de l'État d'Israël, au moment de l'établissement de ce projet colonial sur la terre de Palestine, il y a 800 000 Palestiniens qui ont été expulsés pour faire place nette pour l'arrivée de ce projet d'un État juif sur la terre de Palestine. Aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est plus d'1 million de Palestiniens qui ont été déplacés. Alors, ils sont déplacés à l'intérieur de Gaza, pour l'instant. On sait que le projet israélien, et ça a été très clairement dit, ce serait potentiellement d'en sortir de la bande de Gaza. Ils ont proposé, Daniel Ayalon, de mettre des tentes dans le Sinaï pour sortir les Palestiniens de Gaza. On sait aujourd'hui dans notre chair que quand on est chassé de notre terre, on n'y revient pas. Et donc, l'idée qu'il y a une Nakba à l'œuvre, c'est quelque chose d'important. L'idée de, quand on regarde les racines aussi de cette violence qui nous effraie tous aujourd'hui en Palestine, elle a ses racines dans cette réalité fondamentale. La bande de Gaza, c'est 80% de réfugiés qui ont été expulsés de cette terre et qui aujourd'hui vivent à nouveau ce drame du meurtre, de quitter la maison, de vivre la destruction et de ne pas savoir quand est-ce qu'ils vont pouvoir revenir. Moi, j'ai aucun ami aujourd'hui à Gaza qui est encore dans sa maison, dont la maison n'a pas été au moins partiellement détruite et qui n'a pas dans sa famille très directement des morts, des blessés, des martyrs.
Si je peux ajouter quelque chose à propos de la Nakba, c'est un projet permanent israélien. C'est-à-dire, l'entreprise coloniale en Palestine a réussi, dans le sens où Israël est né, est devenu un État puissant, etc. Mais c'était une entreprise, ce qu'on appelait le colonialisme de peuplement. Mais là où il y a un échec relatif de cette entreprise, c'est que sur le territoire historique de la Palestine, il reste encore autant de Palestiniens que de Juifs israéliens. Et donc, depuis longtemps, il y a l'idée qu'il faut faire partir les Palestiniens. Alors, en période calme, si je peux dire, on les pousse en rendant la vie impossible, les gens, et on peut les comprendre, ils vont faire leur vie ailleurs. Et dès qu'il y a une période de conflit, on les pousse. Omar l'a rappelé comme en 48, mais il y a une autre Nakba qu'on a oubliée, c'est celle de 67. Au moment de la guerre de juin 67, de manière invisible, parce qu'il n'y avait pas les caméras, et je crois qu'il y a peu de gens qui s'en souviennent, Israël a expulsé 300 000 Palestiniens. Et ce processus, je dirais d'une certaine manière, on peut dire que pour Israël, c'est un dilemme, parce que tant qu'il restera ces Palestiniens sur le territoire, il n'y a pas de sécurité pour les Israéliens. C'est pas possible d'envisager parce qu'aucun peuple n'accepte de vivre sous l'occupation. Donc là, il y a cette volonté permanente. Et s'ils ont la possibilité d'organiser une Nakba, ils le font. Mais avec ce que dit Omar, c'est que quand même, les Palestiniens ont appris de 48 et 67. C'est-à-dire qu'ils savent que s'ils partent, ils ne reviennent pas. Et donc, ils s'accrochent à la terre. À un moment où il n'y avait pas d'activité politique, on disait, chez nous, c'est le soumoud, c'est-à-dire rester sur place, résister. Le simple fait de résister, de rester sur place, c'est déjà une forme de résistance. Et donc, bon, alors, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer à Gaza. Le problème, c'est que, évidemment, l'Égypte ne va pas accepter, je pense, de...
on en parlera, justement, j'avais une question là-dessus.
Donc, ouais. Mais bon... Il y a une volonté de résister. En même temps, la volonté de résister ne peut pas aller jusqu'à la mort non plus, forcément. Voilà.
Alors avant d'aborder la question politique, je reviendrai avec vous, Alain Grech. Omar El Soumi, comment les Palestiniens ou les Franco-Palestiniens vivent-ils le soutien politique français? Alors là, je fais un focus sur la France, même si on y reviendra aussi sur la position politique de la France. Comment vivent-ils, j'allais dire au quotidien, le soutien politique français qui a été exprimé assez largement à la position israélienne?
C'est extrêmement difficile aujourd'hui. Et en même temps, dans la difficulté qu'on a, dans la frustration, dans le sentiment d'oppression qu'on a aujourd'hui en tant que Palestinien en France, on ne souhaite pas, on ne veut pas parler de notre souffrance avant de parler de celles et ceux qui aujourd'hui sont sous les bombes au phosphore. C'est celle-là, la mère de toutes les souffrances. Mais effectivement, il y a un processus extrêmement insidieux qui est à l'œuvre. Le fait qu'on n'ait pas le droit de parler, qu'on n'ait pas le droit de se rassembler, qu'on n'ait pas le droit de manifester, qu'on n'ait pas le droit d'être palestinien en fait aujourd'hui. C'est le drapeau palestinien qui est de fait interdit dans les rues de Paris, dans les rues de la France. C'est quelque chose qui effectivement est une deuxième violence, celle du refus total d'être reconnu pour ce que nous sommes, un peuple qui se bat pour une cause juste, une cause de libération, une cause anticoloniale, une lutte contre l'apartheid. Et on sait que ce qui se passe aujourd'hui a des causes fondamentales qui sont là. Et le fait de dire ça déjà, c'est quelque chose qu'on voudrait réprimer, interdire. Et donc je crois qu'il y a vraiment une stratégie à l'œuvre, hein, qui est celle de la violence coloniale, de nous rendre complètement abasourdis par cette violence et ensuite par la censure. C'est très dur et en fait, je pourrais même vous dire, en fait, il y a vraiment des conséquences psychologiques en fait, qui sont frappantes. Moi, j'ai tous les jours des gens qui sont en pleurs au téléphone parce que d'un côté, ils encaissent les nouvelles de leur famille à Gaza, ces images terribles qui nous arrivent, et il n'y a aucun espace aujourd'hui autorisé pour qu'on puisse juste vivre notre deuil, mais aussi exprimer une colère légitime et construire ce dont la France a terriblement besoin, je crois, aujourd'hui. Une expression juste, audible, de ce qu'il y a de fondamentalement juste dans la cause palestinienne, dans notre lutte contre le colonialisme et l'oppression.
Alors justement, je pense que c'est peut-être le moment d'en discuter, parce qu'il y a cette question coloniale qui revient à un moment, on parlait d'un pensée coloniale dans le traitement de la question israélo-palestinienne. Est-ce que justement, parce que cette question n'est pas frontalement, elle n'est pas systématiquement abordée comme telle dans les débats publics, notamment en France, est-ce qu'il y a cette hantise finalement de revenir aux racines même de la création de l'État d'Israël, avec cette logique coloniale concernant donc des populations juives européenne et aussi séfarade, donc maghrébine. Est-ce qu'il y a cette censure-là, cette auto-censure-là qui existe, qui fait qu'on refuse d'aborder cette question coloniale dans le débat public en tant que tel? Ou bien est-ce que c'est un soutien en conscience ou un soutien éclairé, je ne sais pas, avec la conscience finalement de cette logique coloniale qui est à l'œuvre sur tout ce territoire-là. Comment vous voyez ce silence-là de cette question coloniale dans le débat politique français à
Bon,
Lagache?
il y a plusieurs éléments. Il y a la difficulté que la France a avec son histoire coloniale, depuis longtemps, de dresser le bilan, je dirais. Bon, mais ça avance. On voit sur l'Algérie, il y a plein de choses qui avancent et des débats qu'on ne pouvait pas avoir il y a 20 ans, on les a aujourd'hui. Et même sur la politique de la France-Afrique, il y a des choses qui ont évolué. La Palestine et Israël ont toujours été un cas à part. Et je donne toujours l'exemple de juin 67 et de la position du philosophe Jean-Paul Sartre, qui était un vrai anticolonialiste, qui s'est battu pour l'indépendance de l'Algérie, qui a fait plein de choses sur beaucoup de luttes de libération. Et il a calé, je dirais, si on peut dire, sur cette question à l'époque, c'était sur la question palestinienne. Pourquoi? Je pense qu'à l'époque, pèse beaucoup la question du génocide des Juifs, avec un sentiment justifié de culpabilité des Français par rapport à la manière dont la police française avait arrêté et déporté les Juifs. Et donc ça a pesé beaucoup sur quelqu'un comme, même des gens vraiment engagés comme ça. Et jusqu'à présent, il y a beaucoup de mal à accepter l'idée que finalement le mouvement sioniste est un mouvement colonial comme les autres. C'était un mouvement de colonialisme, de peuplement, avec des spécificités, ce n'était pas le même que les autres, mais qui, quelque part, entache ce mouvement et rend une solution difficile parce que le colonialisme, ça veut dire quand même fondamentalement de considérer que l'indigène n'a pas les mêmes droits que le colonisateur, c'est qu'on n'est pas au même niveau. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est très difficile à combattre. Et il y a beaucoup de mal en France, même parfois dans le mouvement de soutien aux Palestiniens, à reconnaître ce caractère colonial du mouvement sioniste. Alors, même si on reconnaît le caractère colonial du mouvement sioniste, quelle est la solution possible? C'est un débat qui est ouvert. Il y a aujourd'hui, en gros, 8 millions de juifs israéliens, 8 millions de Palestiniens sur le territoire historique de la Palestine. Quelle est la solution? Ça peut se discuter. Est-ce qu'il faut deux États? Est-ce qu'il faut un État unique avec deux binationales, etc., etc. Mais je pense que tant qu'on n'aura pas reconnu ce caractère colonial du mouvement sioniste, il y aura beaucoup de mal à développer, à aller vers la solidarité. Puis il y a d'autres éléments qui ont évolué, sur lesquels on reviendra. Je pense que la question de l'islamophobie en France et depuis le 11 septembre notamment, l'idée qu'il y a une menace musulmane, etc., qui fait que beaucoup de gens perçoivent Israël comme un allié face à la menace, islamiste.
Alors, précisément, actuellement, le président américain Joe Biden était à Tel Aviv pour assurer Netanyahou de son plein soutien. Une visite du président américain qui intervenait une semaine après la visite de Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui avait elle-même exprimé son soutien inconditionnel à Israël, ce qui lui avait valu d'ailleurs un certain nombre de critiques. Signalons également que deux résolutions au Conseil des Nations Unies appelant à un cessez-le-feu immédiat avaient été déposées, la première par la Russie et la seconde par le Brésil, qu'elles ont été toutes les deux rejetées, hein, la première par Londres, Washington, Tokyo et Paris, et la seconde par Washington, seule. Donc, pas de cessez-le-feu en vue. Ce blocage politique des Américains, ce sera ma question, peut-il mener par le jeu de l'escalade et le jeu des alliances également, vers un conflit régional?
Oui, ce n'est pas impossible, c'est une des possibilités. On a une situation extrêmement fragile. D'abord, parce qu'il y a dans le monde arabe et musulman, mais surtout le monde arabe, une vraie mobilisation pour les Palestiniens. D'ailleurs, moi, je suis surpris et ça m'inquiète quelque part le fossé qu'il y a entre les opinions publiques dans le monde arabe et les opinions publiques chez nous. Non pas que ce n'est pas normal de réagir de manière différente. La Palestine n'occupe pas la même place dans le monde arabe et en Europe. Donc c'est normal qu'il y ait ces différences. Mais là, il y a vraiment un fossé que je n'ai pas vu en tous les cas en France depuis très longtemps. Et c'est inquiétant parce que ça contribue à créer de facto un choc de civilisation ou à présenter comme ce combat qui est un combat avant tout pour la justice, comme un combat entre Orient et Occident. Et ça, c'est effectivement quelque chose de très inquiétant. Alors, il y a une situation qui est instable parce qu'il il y a ce qui se passe évidemment à Gaza, il y a ce qui se passe en Cisjordanie, même si c'est de manière plus limitée, il y a eu 60-70 morts en Cisjordanie, loin de l'attention de l'opinion, parce qu'on regarde plutôt Gaza. Il y a la frontière entre Israël et le Liban, avec des affrontements. Là, aujourd'hui, ce jeudi, il y a eu des roquettes du Hamas qui sont tombées sur Israël. Il y a une possibilité de mobilisation. C'est sûr que si l'armée israélienne entre à Gaza, s'il y a des massacres à grande échelle, on peut penser que le Hezbollah ne restera pas insensible, ni les Palestiniens du Liban d'ailleurs, puisqu'il y a des combattants du Hamas au Liban. Donc il y a un vrai risque d'explosion, et c'est pour ça que la seule solution serait d'abord le cessez-le-feu, quoi, c'est d'arrêter à la fois pour les populations civiles, c'est-à-dire c'est arrêter de tuer simplement. Et l'autre chose, c'est justement pour permettre un retour à une stabilité, alors qu'un conflit régional va aggraver ce que je constate aujourd'hui, cette espèce de fracture entre l'Orient et l'Occident, entre le monde arabe et l'Europe, entre le monde arabe, l'Europe et les États-Unis, qui est grave, parce que on retourne à des combats, je dirais, presque primaires, quoi. Les occidentaux et les chrétiens contre les musulmans, c'est porteur, à mon avis, de graves dangers.
Omar El-Soumi, on voit en ce moment la situation humanitaire, on parlait des déplacés. Qu'est-ce qui risque de se passer finalement sur le plan humanitaire pour les Palestiniens de Gaza qui veulent fuir les bombardements israéliens? On a parlé d'un million de déplacés, mais qui se retrouvent bloqués pour l'instant par l'Égypte, qui refuse d'ouvrir le corridor de Rafah. Et la Jordanie, qui a dit pas question de recevoir des réfugiés palestiniens. Qu'est-ce qui se trame finalement sur comme scénario pour les Palestiniens? Comment ils voient? Est-ce qu'ils ont déjà vécu une situation comparable?
On a vécu beaucoup de drames et d'horreurs dans l'histoire du peuple palestinien. Je veux dire Sabra et Shatila, Tel Zaatar, la Nakba. On a cité toute cette histoire en fait de guerre et de violence coloniale. Et aussi de complicité et de déception par rapport aux réactions arabes ou internationales. Moi, je ne veux pas parler de ce qui risque de se passer. Je pense qu'il faut parler de ce qui est en train de se passer. Les hôpitaux à Gaza, aujourd'hui, n'ont plus de quoi accueillir les morts, les blessés. J'ai le témoignage d'un ami aujourd'hui qui me dit qu'il rendait visite à un de ses vieux oncles qui était malade, donc une maladie courante, mais en fait, il faut littéralement enjamber les blessés et les morts pour rentrer dans un hôpital à Gaza. Il faut savoir qu'on était déjà dans une situation de siège qui avait mis le système de santé en très grande tension. Et là, ce qui est en train de se produire, les centaines et les centaines de morts qui arrivent tous les jours et les milliers de blessés sont littéralement en train de nous amener vers une situation où il n'y a plus la possibilité de fonctionner. Donc déjà, j'ai envie d'exprimer tout simplement mes voeux de mon soutien en fait à ceux qui se battent aujourd'hui juste pour accueillir ces blessés, ces victimes dans les hôpitaux. Il n'y a pas un risque de catastrophe humanitaire, on est déjà dans une situation absolument catastrophique et c'est scandaleux, enfin, c'est terrible de se dire que jusqu'à aujourd'hui on est en train de négocier et d'attendre pour que peut-être toute cette aide qui est bloquée à Rafah rentre éventuellement demain. C'est pas chaque jour là qui compte. On a un Palestinien qui est tué aujourd'hui dans la bande de Gaza toutes les quelques minutes. Ouais. Et donc c'est chaque seconde, chaque minute en fait qui compte. Et aujourd'hui, encore une fois, je suis pas inquiet pour ce qui va se passer. Je suis catastrophé par ce qui se passe. Et en même temps, je tiens à dire cette chose. On parle avec des gens aujourd'hui qui voient malgré tout un sens à cette souffrance. Ils disent aujourd'hui on tient bon. On tient bon parce qu'il y a une cause qui est beaucoup plus grande que nous. On sait qu'on est aujourd'hui en train de résister justement et dignement pour notre terre, pour la justice, contre un projet colonial raciste dont on sait qu'il ne sera pas éternel. Et donc cette foi très profonde qu'il y a aujourd'hui, qui s'exprime du peuple palestinien, de nos frères et sœurs à Gaza, elle est pour nous aussi un très grand message de responsabilité. On leur dit et on se dit qu'on tâchera d'être à la hauteur de la souffrance de ces martyrs pour construire un projet qui nous permette aujourd'hui d'envisager un autre avenir, un autre horizon pour notre peuple.
Alors justement, parler de projet, peut-être essayer de se projeter, malgré la gravité de la situation, vers les solutions de sortie politique ou l'horizon politique possible qui pourrait être dressé. On a quand même le sentiment, Alain Grech, qu'avec ce dernier épisode de la guerre israélo-palestinienne, qu'une certaine manière, une certaine page politique palestinienne semble s'être tournée. Beaucoup parlent des illusions d'Oslo, en semblant avoir consommé pardon, ce divorce. Beaucoup parlent de l'illusion d'une solution à deux États, avec une colonisation israélienne qui n'a jamais cessé sur le terrain, comme pour empêcher dans les faits ce qui était promis dans les discours. Beaucoup également reviennent de la solution finalement qui a été celle du Fatah, de Yasser Arafat, de venir, d'abandonner la lutte armée pour venir comme un interlocuteur politique, rentrer dans un processus de négociation politique avec les dirigeants israéliens et qui n'a pas atteint ses objectifs. Et surtout aujourd'hui une extrême droite religieuse israélienne pardon, qui prône l'expansionnisme territorial tout azimut. Dans ce contexte-là, ne faut-il pas admettre froidement, vous me direz ce que vous en pensez, que l'option militaire des groupes palestiniens, qui a été celle qui a été privilégiée jusqu'à présent, semble être l'unique possibilité pour les Palestiniens d'établir un rapport de force qui leur permette de réexister dans l'échiquier politique international, et sinon, quelle autre alternative politique leur resterait-il?
D'abord, je veux rejoindre ce que Omar a dit, c'est-à-dire, avant de voir la solution politique, il faut arrêter les massacres. C'est vraiment une condition minimum pour qu'on puisse réfléchir l'avenir. Sur les solutions politiques, ce qu'on peut dire, c'est que l'OLP a fait, dans les années 90, le choix d'une négociation, de la diplomatie, que c'est un choix qui a été aidé par les Européens, dans lequel la France a joué plutôt un rôle positif en permettant la reconnaissance de l'OLP, en l'associant aux négociations, en reconnaissant le droit des Palestiniens à l'autodétermination. Cette solution aujourd'hui a échoué. On peut discuter beaucoup sur les raisons, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un diplomate sérieux qui pense qu'on peut revenir sur Oslo, qu'on peut revenir à Oslo, ni même qu'on peut aller vers une solution à deux États telle que Oslo l'avait esquissée. Maintenant, quelle sera la solution? Moi, je ne sais pas. D'abord, je ne pense pas que c'est à moi de France de dire aux Palestiniens ou même aux Israéliens, vous devez faire ça ou ça, c'est le peuple palestinien. Aujourd'hui, un des drames, c'est la division politique qu'il y a là-bas, mais j'ai toujours été dans les combats de solidarité avec l'idée, en dernière instance, c'est les gens qui sont sur place qui se décident, c'est pas moi. Je veux dire, ici, c'est tellement facile de dire, vous avez à faire ça. Même quand les gens parlent de lutte armée, qui suis-je pour dire aux gens, prenez des fusils et allez vous battre. Je veux dire, c'est à eux de décider et de voir.
Dans l'analyse froide, disons, dans l'analyse, l'analyse froide, à la lumière de l'histoire.
Non, mais je dirais qu'aujourd'hui, pour moi, il n'y a qu'un seul combat qui vaut, c'est le combat pour l'égalité. C'est-à-dire qu'il y a une situation, en fait il y a un seul État aujourd'hui qui est Israël, c'est tout simplement c'est un État d'apartheid où les populations ne vivent pas sous les mêmes lois. Donc ça c'est une chose, c'est un combat que tout le monde devrait pouvoir comprendre, je veux dire, nous l'avons compris pour l'Afrique du Sud, on ne voit pas pourquoi on ne comprendrait pas pour les Palestiniens. C'est ce combat qui, à mon avis, peut permettre de reconstruire une solution politique. Après, comment on le fait triompher, c'est une autre question. Mais ça me semble être un... Après ça, c'est les Palestiniens qui choisissent des luttes. Moi, comme j'ai dit, quelqu'un qui vit sous oppression, s'il utilise la violence... Je peux le regretter parce que je n'aime pas la violence, je n'aime pas que des civils meurent, etc. Mais je pense que c'est Mandela qui disait « Le choix de la violence, c'est jamais celui du colonisé, c'est celui du colonisateur. » Si le colonisateur utilise la violence, nous avons le droit d'utiliser la violence. Donc il y a eu, des actions armées en Cisjordanie, à Jenin, à Naplouse, etc. etc. Mais il faut le reconnaître, c'est des actions extrêmement éclatées. Il y a eu l'action menée par le Hamas. Voilà. Est-ce que ça peut donner un résultat? Moi, je suis assez sceptique sur le fait que, enfin, comment dire, ça peut donner un résultat. Je veux dire, l'action du Hamas a bouleversé d'une certaine manière la donne. Mais à terme, est-ce que c'est ça la solution? Je ne sais pas. Mais encore une fois, ce n'est pas à moi de décider, c'est aux Palestiniens qui vivent, c'est à eux de décider et de reconstruire malheureusement un cadre qui n'existait plus, qui est celui de l'unité nationale sur un projet. Une des difficultés que nous avons en France quand nous parlons de la solidarité avec les Palestiniens, c'est que, bon, disons jusque dans les années 90, même si on pouvait enfin, avoir des réserves sur l'OLP, sur les organisations palestiniennes, il y avait un cadre commun. Et donc, nous, qui n'avons pas à décider pour les Palestiniens, bon, c'était facile. Aujourd'hui, c'est difficile parce que les gens disent, est-ce que vous appuyez l'autorité palestinienne? Non, ils collaborent avec Israël sur la sécurité. Mais qu'est-ce que vous demandez? Vous demandez la dissolution de l'autorité, mais ce n'est pas à nous de demander la dissolution de l'autorité. Donc, il y a une lutte qui, à mon
Qui est
avis, va être
accusé
longue.
de corruption,
Qui a accusé, oui.
notoirement, hein, et de pas
Oui,
organiser des
bon,
élections.
la corruption, enfin, je dirais, j'ai. Bon,
Enfin, c'est des
je connais pas.
accusations qui
Non,
reviennent
non,
assez
non, mais
souvent
je pense que c'est
sur
vrai, mais je
l'autorité.
pense qu'il n'y a pas de structure politique où il n'y a aucune corruption. Mais le plus important, c'est qu'elle n'a pas de projet politique et elle collabore sur le plan sécuritaire avec Israël. C'est ça qui la discrédite, avant tout. La corruption aussi, parce que, bon, quand il n'y a pas. C'est-à-dire, sous Arafat, il y avait aussi de la corruption, mais les gens avaient l'impression qu'il y avait un projet qui était porté par l'OLP et qui pouvait aboutir. Là, ils ont l'impression qu'on va dans le mur, quoi.
Omar El-Soumi, même question. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'état d'esprit des Palestiniens, sur justement les perspectives qui s'offrent à eux? Est-ce qu'aujourd'hui, la lutte armée, qui est complètement discréditée ici en Europe, hein, elle est qualifiée de terrorisme régulièrement, hein, ou systématiquement, est-ce que, à la lumière du rappel historique qui a été fait justement sur le processus d'Oslo et l'échec que ça a abouti politiquement, est-ce qu'aujourd'hui les Palestiniens sont majoritairement favorables et soutiennent ces organisations engagées dans une lutte armée avec Israël, ou est-ce qu'ils sont dans un fatalisme? Voilà.
Une première chose importante à dire, c'est qu'avant les moyens de la lutte, il faut poser quel est l'horizon de la lutte. La lutte pour le coloniser, elle a toujours un prix très important. Et la réalité aujourd'hui, c'est que tous les Palestiniens portent en eux, c'est encrypté dans notre chair, cette conscience, ce savoir que toute la Palestine, c'est notre terre. Que toute la Palestine, c'est là d'où on vient, elle est en nous. Notre existence, elle a précédé, mais pas seulement de quelques années, mais depuis bien avant le projet sioniste, il y a un peuple là, il y a un peuple qui donc a une culture. C'est en Palestine qu'ont été domestiqués le blé, l'olive, le raisin. C'est une culture millénaire, c'est un des berceaux de la civilisation. Et aujourd'hui, moi, je puise aussi beaucoup de force dans le fait juste de se rappeler ça, se dire que notre histoire, elle commence pas avec un projet colonial. Notre histoire, elle commence pas en 47 ou en 1917 avec les déclarations de Balfour ou autres. La Palestine, elle commence pas quand l'Occident commence sa conquête de notre partie du monde. Et donc, dans cet enracinement, dans cette conscience, il y a une aspiration. Il y a une aspiration à la libération de toute la Palestine, mais même au-delà. Il y a une aspiration très profonde à sortir de frontières qui sont très artificielles. On le voit là, du coup, à Rafah de la façon la plus violente possible. Mais les familles de Rafah, côté Gaza, côté Palestine ou côté égyptien, c'est les mêmes personnes. Le Jourdain, c'est une frontière totalement artificielle. La Jordanie et la Palestine, c'est un seul et même espace. Historiquement, Bilad, Cham, moi, enfin, excusez-moi, je me permets de rêver à un moment où tout le monde est en train de pleurer. Mais justement, pour que ces larmes-là, elles soient pas totalement vaines, qu'on se dise que y a des possibles et qu'on a le droit justement de penser un au-delà de ce carcan colonial. On devrait pouvoir aller sans présenter son passeport jusqu'en Syrie, jusqu'au Liban. Ça paraît peut-être très très loin, mais voilà, je tenais à rappeler cela quand même. Parce que notre libération, elle est nécessairement justement au-delà de ce cadre qui a été imposé par un certain moment de l'histoire du monde. Et je pense que de reculer encore et de changer un petit peu le zoom pour penser du coup à une autre échelle, je pense que ce n'est pas totalement inintéressant. On est dans un moment de l'histoire du monde et de l'humanité en fait, où ce qui nous est montré là, en Palestine, c'est bien sûr une très grande horreur, mais c'est aussi une réalité d'un changement total de ce qu'a été longtemps l'hégémonie occidentale, la capacité des Américains à dicter notre avenir et notre devenir. Je crois qu'il y a un très grand bouleversement qui est à l'œuvre. Ce qui s'est passé en Palestine en est un des éléments. On vit un tremblement de terre. Et dans ces moments-là, il faut savoir rester extrêmement droit, parce que sinon, on tombe du côté où on penche. Et aujourd'hui, la France est tombée du côté de son cœur pro-israélien colonial. À nous de faire attention de ne pas tomber, soit dans la tentation d'une violence qui serait que vengeance, ou dans la tentation du désespoir, qui est le pire des mots.
Eh bien, précisément, un mot sur la France, Alain Grèche. Emmanuel Macron a fait le choix d'une position donc très nettement pro-israélienne, on l'a dit en début d'émission. On avait vu récemment la tour Eiffel aux couleurs du drapeau israélien, donc ça relève de la ville de Paris, bien sûr. On a vu également les manifestations de soutien au peuple palestinien être interdites dans un premier temps par le ministre de l'Intérieur, avant que le Conseil d'État ne les autorise ou à tout le moins n'explique que finalement on ne pouvait pas interdire sur décision du ministre de l'Intérieur propositions de manifestation, et que c'était au préfet de décider au cas par cas, voilà, pour être précis. Quant au ministre de la Justice, il a mis en garde sur le fait que tout propos favorable émis sur le Hamas serait passible d'un procès pour apologie de terrorisme. La députée nationale Danielle Obono a d'ailleurs fait les frais de cette politique, puisque Gérald Darmanin a annoncé qu'il saisirait le parquet contre elle, tout comme le NPA de Philippe Poutou. Faut-il voir dans cette politique une volonté de museler les voix, une censure? Est-ce que vous utiliseriez ce terme? Est-ce que cette politique française de répression est une première en France? Peut-être un éclairage historique d'Alain Grèche sur ce sujet. Et que dit-elle de l'évolution de la relation politique entre Paris et Tel Aviv, donc historiquement parlant, depuis ce qu'on appelait sous De Gaulle la politique arabe de la France?
Oui, comme vous l'avez rappelé au début de l'émission, je viens de sortir un livre sur l'histoire des relations France-Israël-Palestine depuis 1967. En 1967, on a une situation très curieuse, c'est-à-dire l'opinion publique française est massivement pro-israélienne, à l'exception du Parti communiste et de quelques petits groupes gaullistes ou chrétiens. Et le général de Gaulle prend une position que j'ai rappelée, c'est-à-dire la condamnation de l'agression israélienne. Et pendant 20 ans, on peut dire qu'on a eu une politique française qui était d'ouverture à l'égard notamment des Palestiniens, c'est-à-dire que les présidents successifs, c'est-à-dire Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, vont reconnaître le fait national palestinien de manière de plus en plus importante, avec l'ouverture d'un bureau en 1974 de l'OLP à Paris, avec la reconnaissance du droit des Palestiniens à l'autodétermination, avec la réception de Yasser Arafat à Paris. Et ça s'est accompagné d'un changement dans l'opinion publique. C'est-à-dire cette opinion publique dont j'ai dit qu'elle était totalement pro-israélienne, disons, en 67, petit à petit, sous l'effet du travail des groupes de solidarité avec la Palestine, de l'évolution de la politique française, et de ce qui se passait sur le terrain, notamment l'invasion israélienne du Liban en 82, qui a été un très grand choc, et la première intifada à partir de 87, a amené un changement de la position de l'opinion. Et une opinion publique qui n'a jamais été anti-israélienne au sens qu'on peut retrouver, disons, peut-être ailleurs dans le monde arabe, mais qui était de dire toute solution passe par le droit des Palestiniens à un État. Et ça aboutit au fait que l'OLP a été reconnue internationalement par les Israéliens et par les Américains, qui jusqu'à présent l'a considérée comme une organisation terroriste. Puis il y a eu la période des accords d'Oslo, et à partir de ce moment, alors il faudrait rentrer dans les détails, mais si vous voulez, il y a eu d'abord un désinvestissement français et européen, c'est-à-dire que la France et l'Europe se contentaient de financer l'autorité palestinienne et laisser les Américains servir d'intermédiaire entre Israël et l'OLP, et dans des négociations qui étaient déjà inégales, parce que la force d'Israël face à l'OLP s'était déjà totalement démesurée, les Américains qui soutenait Israël, chaque fois qu'il y avait des blocages dans les négociations, les Européens faisaient pression pour obtenir plus de concessions palestiniennes. À un moment où tout le contenu des accords d'Oslo a été vidé de son sens. Et donc on est arrivé à la seconde intifada. Et puis, cette seconde intifada va coïncider plus ou moins avec le 11 septembre 2001 et un changement de vision du monde. D'abord, l'Union soviétique avait disparu, il n'y avait plus de danger communiste, etc. Et donc, ça a été remplacé par le danger islamiste, le terrorisme islamiste, etc. Et ça a amené un changement de regard des politiques français à l'égard d'Israël. C'est-à-dire, Israël était considéré comme un allié dans la lutte contre le terrorisme. Et c'est devenu un des mantras des gouvernements français successifs. Alors, dans le livre, j'appelle ça un tournant silencieux de la politique française, parce qu'il n'y a jamais eu vraiment de reconnaissance que la France avait changé de position. Après tout, elle a le droit de changer de position, comme tout pays. Mais ce qu'il y avait qui était important, c'est que ça s'est fait dans le silence, avec l'idée, nous, on est toujours pour la solution des deux États. Chaque fois qu'il y a des colonies, on condamne, mais on ne fait rien. Et parallèlement, on développe des relations bilatérales entre la France et Israël, et d'ailleurs l'Union européenne et Israël, comme si le problème palestinien n'existait pas. Et donc, petit à petit, il y a eu un vrai changement de la politique française et de la classe politique française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce tournant, il est... Bon, d'abord...
Vous le dateriez, ce tournant
En gros, de l'arrivée au pouvoir de Sarkozy. Mais c'est pas lui... Enfin, je veux dire, c'est pas le seul facteur, parce qu'il y avait... Ça avait commencé, à mon avis, un peu avant, mais disons la présidence Sarkozy. Et après, ça n'a pas changé. Sarkozy, Hollande, socialiste, Sarkozy, la droite, et aujourd'hui, Macron, ailleurs, ils ont continué sur cette même orientation de soutien à Israël, de plus en plus inconditionnel, de plus en plus une position de plus en plus déséquilibrée, sans aucune initiative qui aurait permis de rétablir le rapport de force entre les Palestiniens et Israël. Et là, on est... Alors, ce qui est nouveau maintenant, parce que... Enfin, nouveau, je pense que ça a commencé sous Macron, mais c'est la volonté de criminaliser la solidarité avec la Palestine. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire, même dans les années 70, où l'opinion était très pro-israélienne, le mouvement de solidarité avec la Palestine, qui n'était pas très puissant, il pouvait être accusé d'être antisémite ou des choses comme ça, mais il n'y avait pas de répression contre lui. Depuis le mouvement BDS, le mouvement boycott des investissements en sanctions, il y a la volonté de criminaliser ce mouvement, alors que c'est un mouvement purement pacifique. Je veux dire, c'est curieux que les gens qui condamnent qui disent il faut condamner la violence, en même temps répriment un mouvement qui est un mouvement pacifique. Et la France a été condamnée par la Cour européenne, mais elle essaye quand même de continuer à les criminaliser. Et là, on a atteint, avec ce qui s'est passé à Gaza, un niveau supplémentaire. C'est-à-dire que pratiquement, il est impossible d'exprimer, je crois que Darmanin l'a dit comme ça, on ne peut pas exprimer sa solidarité avec la Palestine. Si on porte un drapeau palestinien, on est verbalisé. Si on porte un kéfir, on est verbalisé. Et là, ça me semble à la fois injuste, en plus pour un pays qui se réclame de Charlie Hebdo, de la liberté d'expression, etc., d'empêcher l'expression. Et ça ne se passe pas dans d'autres pays. Même aux États-Unis, il y a plus de possibilités de critiquer Israël que ici, et de soutenir les Palestiniens qu'ici. Donc c'est quand même quelque chose, d'assez grave et qui représente un vrai tournant et qui a une conséquence, je ne sais pas si je l'ai évoqué au début, c'est-à-dire ça crée un fossé entre non seulement le monde arabe qui est massivement aux côtés des Palestiniens et qui ne comprend absolument pas, même chez les gens qui nous sont le plus favorables. En Tunisie, vous savez, les gens se sont... ça fait 10 ans qu'ils se disputent entre islamistes, non-islamistes, libéraux, socialistes, etc. Tout le monde est uni aujourd'hui sur le soutien à la Palestine. Donc la France apparaît comme... incompréhensible, d'autant que moi j'ai souvenir d'être allé là-bas en 70, dans les années 70-80, les journalistes français étaient accueillis comme des héros. Je veux dire, là aujourd'hui c'est exactement le contraire. Et ce fossé, malheureusement, il existe en France parce qu'il y a une partie de la population, notamment les enfants d'immigrés, si on peut dire, originaires d'Afrique du Nord ou ailleurs, mais pas seulement, je veux dire, qui se sentent solidaires des Palestiniens et qui ne peuvent pas l'exprimer. C'est quand même assez extraordinaire. Et donc, on contribue à une forme de séparatisme. Le gouvernement dit qu'il veut lutter contre le séparatisme, mais on est en train de contribuer à ce séparatisme et à creuser les fossés dans la société française.
Alors, Omar El-Soumi, ce sera ma dernière question. Alain Grech rappelait ce contexte de... Enfin, la nouveauté de ce niveau de répression en France, hein, où aujourd'hui voilà, la manifestation du soutien à la Palestine peut faire l'objet d'une criminalisation, comment se passe sur le terrain justement, comment les militants gèrent cette nouvelle donne, si je puis dire, de la gestion répressive du soutien à la Palestine. On a vu un certain nombre de manifestations qui avaient été interdites, mais malgré tout, les manifestants étaient restés sur place. C'était des rassemblements, d'ailleurs, c'était pas, il n'y avait pas de déplacement, hein, c'était des rassemblements pour exprimer leur solidarité. Voilà, comment on perçoit du point de vue des militants et du point de vue plus généralement de ceux qui soutiennent la cause palestinienne, cette nouvelle donne répressive en France?
Je crois que c'est important de dresser le lien, justement, entre la France aujourd'hui et Israël, en plus de ce que Alain Grech a rappelé, moi ce que je vois, le sentiment que j'ai, c'est vraiment qu'on a deux régimes qui sont aux abois, qui sont très fortement contestés et qui n'ont plus que la violence et la répression comme instrument. Bien sûr, il n'y a aucune mesure et comparaison dans le niveau de violence, et nous, Palestiniens, ici, on vit quelque chose qui n'a bien sûr rien à voir en proportion avec ce que vit le peuple palestinien en Palestine. Néanmoins, déjà dans les discours, cette volonté de détruire totalement, d'anéantir cette altérité qu'on représente, que ce soit en Palestine ou en France, ce racisme en fait colonial, il s'exprime de plus en plus ouvertement. Cette idée qu'il faudrait nous liquider pour ce que nous sommes, aujourd'hui, on l'entend s'exprimer ici et là-bas. Je tiens à adresser ce lien-là pour dire combien il est important aujourd'hui ici de tenir bon malgré tout et de continuer à ouvrir toutes les brèches possibles pour lutter contre ce gouvernement français qui est par ailleurs, on le voit, dissolution des soulèvements de la terre, répression contre toutes les structures, notamment musulmanes, contre l'islamophobie, répression des mouvements sociaux. Il y a vraiment un enjeu aujourd'hui à ce que la Palestine, elle prenne sa place dans un mouvement populaire qui est réel aujourd'hui en France. Je crois qu'il y a une déconnexion très forte, en fait, entre les élites de ce pays qui prétendent le gouverner depuis des endroits où, en fait, ils ont très peu de légitimité et la réalité d'un peuple. Alain Grech disait tout à l'heure, beaucoup de gens qui sont solidaires du peuple palestinien et qui sont issus de l'immigration, c'est une réalité. Je veux dire, quand on parle arabe, quand on a porté dans sa chair la violence du colonialisme et du racisme, c'est normal d'être plus facilement solidaire du peuple palestinien. Mais moi, ce que j'ai vu, Place de la République à Paris, la semaine dernière, c'est une jeunesse française extraordinairement diverse, des personnes qui viennent avec des pancartes pour dire « je suis juif » et antisionistes, des blancs, des jaunes, des noirs, des arabes, voilés, pas voilés, enfin, ils veulent nous caricaturer.
Donc, pas de peur,
et nous enfermer
par rapport à cette...
dans quelque chose, mais moi ce que je vois à l'œuvre aujourd'hui, c'est un soulèvement d'une jeunesse, notamment, qui, à mon avis, fait très très peur à nos gouvernements, et l'espoir que la responsabilité des organisations syndicales, politiques, associatives, une fois passée la stupeur de cet acte offensif du Hamas en Palestine, on puisse re-rentrer dans quelque chose de plus raisonné et dépassionné pour aller à l'essentiel, l'exigence de justice, de solidarité, qui sont les conditions de la paix que tout le monde appelle de ses voeux.
Merci Omar El-Soumi. Je rappelle que vous êtes le cofondateur du collectif Urgence Palestine. Merci également à Alain Grech d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous étiez le rédacteur en chef du Monde Diplomatique. Vous êtes le fondateur de la revue en ligne Orient 21 et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages qu'on mettra en ligne sur cette vidéo. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet entretien. Et je vous donne rendez-vous très bientôt sur Mizen TV.
Merci.
Merci.